Merci beaucoup. La présence du Seigneur, c'est aussi la parole qu'il veut nous adresser. Et je vous invite à, ensemble, ouvrir la Bible. Marie-France a déjà annoncé que nous sommes dans une série de méditations qui concernent la vie d'Abraham, son appel, les projets que Dieu a pour lui, ce Dieu riche en projets pour chacun des siens. Et je vous invite à lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, à partir du verset 4. Genèse 12, à partir du verset 4. Le Seigneur a appelé Abraham à quitter son pays, sa patrie, vers le pays que le Seigneur lui montrerait. Verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Saraï et son neveu Lot, avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Négev. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine s'apesantissait sur le pays. Alors nous reviendrons sur cet épisode de l'Égypte la prochaine fois, mais je continue avec le retour de l'Égypte, verset 13. Abraham remonta d'Égypte vers le Négev, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négev jusqu'à Bethel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Jusqu'ici, notre lecture. On guette souvent avec beaucoup d'attention les premiers pas ou les premiers gestes de quelqu'un qui aborde une situation ou une responsabilité nouvelle. On attend de ces gestes une indication sur la personne, sur ses intentions, sur son caractère. On analyse aussi l'accueil favorable ou non que reçoit cette personne, les circonstances qu'elle doit affronter ou qui au contraire la portent. Toutes ces premières sont considérés avec beaucoup d'intérêt et on les interprète souvent comme des signes de ce qui va se passer par la suite. C'est ce que nous vivons, par exemple, lorsque nous changeons de président de la République ou lorsqu'un nouveau patron arrive dans une entreprise, mais aussi lorsque l'on fait soi-même ses premiers pas dans un travail ou dans une responsabilité. Les débuts sont très chargés de signification, parfois trop et à tort, car ils ne disent pas toujours la vérité sur ce qui suivra. Mais n'empêche, ils comptent, on les considère tout spécialement. Et c'est à ce point particulier que nous sommes dans l'histoire d'Abraham. Nous avons considéré ces deux derniers dimanches les circonstances et les étapes de son appel par le Seigneur, Yahvé, le Dieu unique et vrai. Nous avons vu la signification, la portée de cet appel. Dieu fera d'Abraham et de sa descendance un canal par lequel il se fera connaître et une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Voilà donc un homme est inséré dans un projet large et élevé et conduit vers une destination riche en promesses. On a hâte de connaître la suite. Que va-t-il rencontrer? Quelle sera sa vie? Que va faire Dieu pour lui? Notre récit va nous faire découvrir ces choses, mais pas tout de suite, car il souligne d'abord l'acte sans lequel rien ne se serait passé. L'acte sans lequel même la grande promesse de Dieu serait restée sans effet. Abraham partit, nous dit le texte, comme l'Éternel le lui avait dit. Le texte, dans sa sobriété extrême, souligne l'obéissance d'Abraham. Ce départ n'est pas son initiative à lui, mais une réponse à ce que le Seigneur lui avait dit. Dieu lui a dit « Va » et Abraham fait le pas. Dieu lui a dit « Je te montrerai » et Abraham n'en demande pas plus. Il ne fait pas de grandes déclarations au futur « Oui, je partirai, oui, je ferai ce que Dieu demande ». Ce qui est souligné, c'est l'acte. Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait demandé. C'est souvent silencieux, un acte. Les gens qui agissent le plus sont souvent ceux qui ne parlent pas beaucoup, car le poids des choses pour eux est donné par leurs actes. Et c'est vrai qu'une action parle par elle-même, elle est en elle-même un langage. Dans certains cas, elle est le seul langage possible. L'obéissance, en particulier, ne connaît que le langage des actes. Dire « je partirai », ce n'est pas obéir. Dire « je ferai », ce n'est pas obéir. Il faut un acte pour qu'il y ait obéissance. Et c'est pourquoi notre récit est si sobre. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. C'est ce pas qui a tout mis en route une fois reçu la promesse de Dieu. C'est ce geste, cet ordre donné à toute la caravane qui le suivait, qui a fait d'Abraham le père des croyants et une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ce geste qui ouvre un avenir a aussi un prix. Il est dit « Abraham partit », mais un peu plus loin il est dit « Ils sortirent de Haran. » Abraham et les siens ont dû sortir, ont dû laisser Haran. Ils ont dû laisser une partie de leur sécurité. Ils ont laissé une partie de leur famille. Ils ont laissé un endroit où ils avaient acquis des biens et du personnel. Quand on choisit une direction, on laisse d'autres choses. On laisse d'autres possibles. Certaines personnes refusent de choisir parce qu'elles veulent préserver à tout prix toute chose. Elles veulent tout préserver, tous les possibles, ne rien laisser, n'abandonner aucune chose possible. Mais on ne construit rien en voulant tout préserver, en voulant garder tous les possibles. Aller vers la promesse pour Abraham, c'était sortir. C'est en faisant de nouveaux pas sur d'autres chemins qu'Abraham découvrira les bienfaits que Dieu a en réserve pour lui. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Ayons à cœur, chien, de faire les pas que Dieu nous demande. Avons-nous compris, en lisant notre Bible, que Dieu nous demande quelque chose? Avons-nous peut-être depuis longtemps des listes de tout ce que nous devrions faire? Moi, j'en ai quelques-unes de ces listes-là, comme ça. Prenons la décision, faisons un pas, concrétisons une chose. Cela ne fera peut-être pas beaucoup de bruit, mais c'est le seul moyen d'avancer et de frayer un vrai chemin. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et il a accepté de quitter pour découvrir ce que Dieu avait en réserve pour lui. Ceci dit, si on essaye de se représenter ce départ, il faut quand même se rendre compte que c'était une vraie expédition, une vraie aventure aussi. Abraham, nous dit le récit, prit avec lui Sarai, sa femme, et Lot, son neveu, ainsi que tous les biens qu'il possédait et personnels qu'ils avaient acquis à Haran. Quelle est l'ampleur de ce groupe? Quelle est l'ampleur de ce déplacement? Lorsqu'on lit le récit un peu plus tard, par exemple, on découvre quelque chose de la taille de ce personnel. Le personnel qui était celui d'Abraham au chapitre 14 se révèle ne composer pas moins que 318 personnes adultes, hommes, dans la force de l'âge. Abraham avait avec lui plus de 318 hommes dans la force de l'âge, comme personnel. Et c'était des gens qui étaient, nous dit le texte, nés dans sa maison. Il y avait donc des familles qui se retrouvaient là avec Abraham pour tout ce clan qui était le sien. Il faut donc imaginer une troupe de plusieurs centaines de personnes. C'est ça le départ d'Abraham. Plusieurs centaines de personnes avec des hommes, des femmes, des enfants, des gens qui étaient nés là dans le clan. Il faut imaginer tous les biens des familles. Il faut imaginer les animaux pour tout porter, les chariots pour ceux qui devaient être transportés. Il faut imaginer les milliers de bêtes qui constituaient les troupeaux. Tout un clan se met en route. Le convoi est important. Les étapes doivent respecter aussi le rythme des hommes et des bêtes. En responsabilité de ce convoi, on identifie un homme de 75 ans, et sa femme et leur neveu. Cette simple énumération en dit long, surtout par ses silences. Abraham et Sarai n'ont pas de descendance. Lot qui les accompagne n'est que leur neveu. Il y a une solitude de ce couple sans enfants au milieu de tous leurs serviteurs et leurs servantes, avec leurs enfants à eux qui courent de partout. La figure d'Abraham se distingue donc en tant que chef de ce clan, mais le couple aussi se distingue en creux, sans enfants, au milieu de tant de cris d'enfants. C'est Abraham qui est en charge de toute l'expédition. C'est lui qui a mis tout le monde en route. Il dépend lui-même de la direction de Dieu. « Va vers le pays que je te montrerai », avait dit le Seigneur. Abraham, nous dit le texte, prend la direction de Canaan, du pays de Canaan. A-t-il reçu cette indication? A-t-il pris ce chemin avec les lumières qu'il avait? Le récit, en tout cas, ne mentionne aucune apparition du Seigneur à Abraham pendant tout ce long voyage. À chaque étape, il revient à Abraham de remettre sa troupe en route, de donner les directives, la direction pour le jour. On imagine le poids de responsabilité, l'anxiété peut-être parfois, l'attente d'un signe de Dieu. Mais de signe, il n'y en a pas, apparemment. L'expédition est longue, plus de 600 kilomètres à parcourir, des jours et des jours de marche, au rythme des troupeaux, des enfants, d'un groupe aussi important, aussi compliqué à gérer. On quitte d'abord les pâturages gras des sources de l'Euphrate pour pénétrer sur des terres beaucoup plus sableuses, à l'herbe rêche et plus rare. Bientôt, il faudra affronter un désert qui se trouve au nord de la Syrie actuelle. Il faut, avant chaque difficulté nouvelle, préparer les troupeaux, faire de longues pauses certainement pour fortifier les troupeaux avant l'étape difficile qui viendra. On apprend à se protéger de la chaleur du jour, à se protéger du froid de la nuit. On avance d'étape en étape, d'oasis en oasis, au rythme d'un clan et de tous les événements qui y surviennent. La taille du clan certainement le protège contre les attaques, mais il y a là un long chemin. Enfin, après des mois, ils arrivent au pays de Damas. Ils découvrent là des arbres et des fruits inconnus. Il leur faut contourner les villages avec prudence, ne s'installer que dans les pâturages les plus pauvres pour ne pas provoquer la colère des habitants. Ils ne sont là que de passage. Ils continuent vers le sud, la vallée du Haut-Jourdain. Enfin, à nouveau l'eau en suffisance, des collines environnantes qui sont rondes et fertiles. Il y a là de quoi nourrir les troupeaux et s'installer. Ils quittent la vallée du Jourdain pour une vallée latérale, tout autour des espaces, des collines. Est-ce le terme du voyage? Les yeux de tous sont sur Abraham. Mais Abraham, depuis des jours, des semaines, semble attendre quelque chose. « Le pays que je te montrerai », avait dit le Seigneur. « Est-ce plus loin ?» À vrai dire, Abraham est arrivé dans le pays de la promesse. Il en a déjà traversé toute la partie nord, toute la moitié nord. Et le voici à Sichem, carrefour entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud du pays de Canaan. Et là, enfin, c'est le dénouement. Le Seigneur, nous dit le texte, apparaît à Abraham. Une apparition claire, nette, comme lors de son appel. Le Seigneur lui indique qu'il est bien là où il devait aller et le renouvelle dans la promesse d'une descendance. Une descendance pour lui et une terre pour lui également. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance ». J'ai essayé de reconstituer avec vous ce qu'a pu être ce voyage. Il nous faut faire cet effort. Parce que ce texte est très ramassé quand nous le lisons. Nous lisons en 7 versets deux apparitions de Dieu à Abraham. Et cela nous prend 3 minutes à nous. Et on a l'impression que Dieu apparaît à Abraham, il fait un petit déplacement et Dieu lui apparaît encore et tout va bien. Et c'est comme ça que se roule la vie d'Abraham. Les anciens, eux, savaient que ces 3 minutes de lecture ont été pour Abraham des mois entiers d'une immense expédition, avec des obstacles à franchir, avec des incertitudes, avec la responsabilité pour Abraham d'un clan aussi important. Abraham n'a pas été conduit, comme le serait Israël plus tard, sous Moïse, par une nuée dans le ciel, pour lui indiquer la route à chaque instant, chaque matin nouveau. Il a dû prendre ses responsabilités avec ce qu'il savait de ce que Dieu lui avait dit. Et Dieu a été fidèle à sa promesse de lui montrer le pays qui lui destinait. Il lui a donné les jalons nécessaires là où il le fallait et au temps voulu. Mais la vie d'Abraham n'a pas été faite d'apparition de Dieu à tout bout de champ. Ce n'est pas comme cela que la vie d'Abraham a fonctionné. Bien au contraire, ce qui frappe... ce sont les intervalles entre les apparitions de Dieu. Et il a fallu, pour Abraham, vivre ses temps avec ce que Dieu lui avait donné et avancer dans la confiance en ce que Dieu lui avait dit. Il nous faut donc saisir dans la vie d'Abraham la longueur du temps et l'exigence pour lui de persévérer et de garder confiance. Voilà donc Abraham dans le pays que Dieu lui a promis. Et que découvre-t-il ? Un pays déjà habité. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Un pays également de croyances païennes. Abraham s'est arrêté à un endroit appelé le chêne de Morée, ce qui signifie le chêne de celui qui enseigne. Probablement, ça veut dire le chêne de celui qui donne des oracles. Vraisemblablement, il s'agit d'un arbre sacré des Cananéens, au-dessus de la bourgade de Sichem, un lieu considéré comme la demeure des dieux. Abraham n'arrive pas en terrain neuf, dans un terrain vierge de tout. Des peuples sont présents, avec leurs dieux, avec leurs croyances. Abraham se retrouve au milieu de populations polythéistes. Faut-il s'en désoler pour lui ? Que ce pays que Dieu lui a promis soit ainsi, pas vraiment. Car la chose forte, c'est que précisément à cet endroit, le Seigneur Yahvé lui apparaît, lui parle, lui indique qu'il est bien là où il doit être et lui promet de donner ce pays à la descendance qu'il lui annonce. Au lieu même où il y a d'autres croyances, Abraham reçoit un nouveau témoignage clair de la réalité de son Dieu, du Dieu unique et vrai. Le Seigneur se montre fidèle à ce qu'il avait dit, « Je te montrerai le pays où tu dois être ». Le Seigneur se montre riche en projets pour Abraham. Il lui promet une descendance et ce pays pour sa descendance. « Je connais les projets que je forme sur vous. » Cela nous a été rappelé, projet de paix et non de malheur pour vous donner un avenir. Le Seigneur donne cette terre à la descendance d'Abraham. Ce lieu, comme toute la terre, lui appartient. C'est pour ça qu'il peut le donner. C'est lui qui l'a créé. Il est, comme le dira plus tard Abraham, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Abraham reçoit la bénédiction de son Dieu, l'accompagnement de son Dieu, la manifestation de son Dieu. Mais la bénédiction de Dieu se vit et se reçoit au cœur de la réalité humaine. Dieu n'a pas appelé Abraham hors du monde. Dieu n'a pas appelé Abraham hors du temps. Dieu n'a pas appelé Abraham hors de l'histoire. Mais il l'a appelé dans le monde tel qu'il était, pour que dans ce monde-là, Abraham le serve, Abraham marche en sa présence, Abraham soit un témoin du Dieu vrai et véritable. Et Jésus, pareillement, dira à propos de ses disciples en priant pour eux, « Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. » Voilà donc Abraham sur cette terre, qu'il sait désormais pour lui et pour sa postérité, mais où il est encore étranger. Son premier geste est de bâtir un autel au Seigneur. Abraham rend hommage à Dieu. C'est d'abord un hommage personnel, une reconnaissance au Seigneur qui lui est apparu, qui l'a guidé jusque-là. Mais c'est aussi un témoignage. Tous ceux qui passeront par là pourront voir cet autel et sauront que cet étranger révère le Dieu très haut. S'ils interrogent un peu, ils sauront que ce Seigneur est le Dieu unique, un Dieu qui se fait connaître, un Dieu qui se fait connaître comme le Maître unique du ciel et de la terre. Car telle est bien la spécificité de cet autel. Abraham bâtit là un autel au Seigneur qui lui était apparu. Le culte dont Abraham est le témoin est une relation avec un Dieu qui se fait connaître, un Dieu qui se manifeste lui-même. Ce Dieu-là s'appartient, il habite une lumière inaccessible, mais il peut et il a bien voulu se faire connaître. La révélation à Abraham, nous le savons, n'est qu'un tout début. Cette histoire se prolongera. Dieu continuera de s'attester, de parler, jusqu'à la révélation indépassable qu'il apportera à Jésus-Christ, où celui qui était le Fils éternel, vrai Dieu de vrai Dieu, revêtira notre humanité, se fera solidaire de nous jusqu'à endosser notre condamnation en mourant à notre place, avant de manifester par sa résurrection le triomphe de l'espérance et du pardon. Oh, remercions le Seigneur de ne pas nous avoir laissés à nos simples tâtonnements pour le connaître, mais d'avoir été mis au bénéfice de sa révélation, par sa venue, par le don du salut qu'il a pleinement accompli en Jésus. Abraham bâtit un autel au Seigneur qui s'était manifesté à lui, qui lui était apparu. Nous pouvons nous aussi rendre un culte au Seigneur parce qu'il est venu vers nous, parce qu'il s'est fait connaître à nous. Il l'a fait en Jésus. Abraham sait donc qu'il est désormais sur la terre que Dieu promet à sa descendance. Il pourrait être temps qu'Abraham se pose, qu'il s'installe, mais nous voyons qu'il ne reste pas à Sichem. Il lui faut trouver un lieu hospitalier pour lui, pour l'immense troupe qui l'accompagne. Il faut aussi certainement qu'il puisse habiter en paix. Et c'est ce qui conduit Abraham à chercher un autre lieu. Il continue vers le sud-est, dans une région de collines bien arrosées qui domine la vallée du Jourdain, et il s'installe. Et là, il a un nouveau geste qui traduit ses priorités. Il bâtit un autel, nous dit le texte, à nouveau. Mais cette fois-ci, pour bâtir son autel, il n'a pas bénéficié d'une manifestation particulière de Dieu. Il nous est dit, il bâtit un autel, et là, il invoque le nom de Yahvé, son Dieu. Autrement dit, Abraham répond par son initiative propre à l'initiative première du Seigneur. Il devient désormais quelqu'un qui appelle le Seigneur, qui l'invoque, qui se confie en lui, qui s'approche de lui, qui demande au Seigneur d'accomplir lui-même tous ses projets envers lui, qui a confiance en lui. Abraham est le père des croyants. Avoir la foi, c'est pareillement vivre dans cette ouverture à l'égard de Dieu chaque jour. Avons-nous cet autel dans notre cœur où régulièrement nous venons vers le Seigneur, où régulièrement nous invoquons le Seigneur qui s'est fait connaître à nous, où dans la confiance et l'obéissance, nous attendons tout de lui. Abraham, donc, a ce deuxième autel, où il avait à cette étape nouvelle. Mais cette étape, avec son autel érigé pour le Seigneur, ne sera pas encore le temps de l'installation, car après cette étape à Bethel, entre Bethel et Haï, nous dit le texte, Abraham doit poursuivre sa migration encore plus vers le sud. On ne sait pas trop pourquoi il doit continuer sa migration, pourquoi il ne s'installe pas là. Probablement lui manque-t-il un accueil suffisant, sans risque de conflit avec les populations locales. Son clan est important, ses troupeaux sont nombreux, c'est pas évident du tout de s'installer comme cela. Ça a été certainement quelque chose de difficile. Le résultat, c'est qu'Abraham se trouve sur la terre que Dieu lui promet, que Dieu promet à sa descendance, mais il ne s'y installe pas. Il ne trouve pas un lieu dont il pourrait faire sa demeure absolument permanente. Il ne fait que dresser ses tentes, la sienne et celle de tous ceux qui l'accompagnent. Mais sur cette terre où il n'a aucune demeure, Abraham invoque le Seigneur qui s'est manifesté à lui. Et Abraham se déclare par les autels qu'il bâtit comme un serviteur, comme un adorateur du Dieu unique et vrai. Quelle trace laisse-t-il de son passage? La trace d'un homme dont l'ancrage est en Dieu. Les pierres qu'il érige dans le pays que Dieu lui donne ne sont pas des maisons. Les pierres qu'il érige ne sont pas des villes. Les pierres qu'il érige ne sont pas des fortifications où il s'implanterait lui-même avec sa propre force sur son pays. Non, sa trace, les pierres qu'il érige, ce sont les autels qu'il bâtit au Seigneur, des témoignages de la présence de Dieu à ses côtés, des lieux où il s'approche de Dieu pour l'invoquer, lui offrir son hommage, sa fidélité et tout attendre de lui. À cause d'une famine qui surviendra, Abraham devra quitter la terre que Dieu lui a promise. Il se rendra en Égypte où il mettra sa femme Sarai en grave danger par calcul trop humain, nous y reviendrons. Mais Dieu les délivrera et Abraham reviendra à l'autel qu'il avait bâti entre Haï et Bethel. Et là, de nouveau, une fois mis au large par le Seigneur, nous le voyons en train d'invoquer le nom du Seigneur. Chapitre 13, verset 4, entre Bethel et Haï, Abraham revient à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, il invoqua le nom du Seigneur. Quel bilan, quel premier pas, quels enseignements de ces premiers pas d'Abraham sur la terre de la promesse? Je crois que ces premiers pas nous questionnent d'abord sur ce qu'est le bien véritable, le bien le plus important. Dieu a promis à Abraham une descendance et une terre pour cette descendance. Mais le bien suprême pour Abraham sera le Dieu de la promesse et non la terre vers laquelle il était parti. Toute sa vie, Abraham résidera sur cette terre en résidant étranger, sans posséder lui-même de terrain. L'image du patriarche qui dresse sa tente au milieu de lieu en lieu est un témoignage très parlant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Abraham ne bâtira pas de ville dans le pays que Dieu lui a donné. Il habitera sous des tentes. C'est voulu de Dieu. Abraham, le père des croyants, nous rappelle notre véritable condition. Nous sommes nous aussi de passage sur la terre. Nous y sommes des résidents temporaires. Nous sommes voyageurs. Notre cité permanente n'est pas ici, elle est encore à venir. Car la promesse de Dieu pour les siens, c'est un monde renouvelé, un monde totalement, définitivement libéré, délivré du mal et de la mort, dans une pleine harmonie retrouvée avec son Créateur. Comme Abraham, ce monde, nous l'attendons encore. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, nous dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 3. Et cette attente change nos priorités, elle change notre regard. Nous n'investirons pas toute notre énergie, tous nos espoirs, tous nos efforts, comme si notre seul horizon était la terre et la vie présente. Mais nous ferons du Seigneur notre ancrage premier, comme Abraham l'a fait. Le bien véritable, le bien le plus important, quel est-il ? C'est le Seigneur de la promesse. En même temps, il faut quand même bien dire que nous avons aussi besoin d'un lieu. Il ne faut pas faire d'angélisme et de se dire « tout va bien, on peut être là sans ces besoins de sécurité, nous avons besoin d'un toit, d'une sécurité matérielle ». Abraham finalement s'est posé quand même dans le pays que Dieu lui donnait. Mais la figure qui représente cette installation est une tente et non une ville. Cela nous rappelle que ce que nous possédons, ce qui nous assure une sécurité vraiment précieuse, n'est pas la réalité dernière. Et il nous faut apprendre à apprécier ces dons, tout en gardant une saine distanciation intérieure et sans faire de ces objets, ces moyens de notre sécurité, notre fin dernière. Il nous faut apprendre vraiment, comme l'apôtre Paul nous y invite, à user du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Et c'est exactement ce que nous disent les premiers pas d'Abraham. Imaginons que le premier acte d'Abraham ou le premier ordre de Dieu à Abraham ait été de bâtir une ville. Là, tu es dans le pays, bâtis-toi une ville. Le message aurait été tout autre. Ça veut dire installe-toi, trouve tes fondements là, dans ce pays, sur cette terre. Mais Abraham, nous dit l'Épître aux Hébreux, attendait autre chose. Et s'il est une ville qu'il attendait, une cité qu'il attendait, c'était la cité dont Dieu est l'architecte et le fondateur, la nouvelle Jérusalem, mais non pas cette existence-là dans le pays que Dieu lui donnait. Apprenons donc là aussi à bien peser les choses. Troisième enseignement, la figure d'Abraham arrivant dans ce pays que Dieu lui a promis est une figure de paix. Est une figure de paix. Abraham ne s'impose pas. Abraham ne vient pas en conquérant sur la terre que Dieu lui promet. Il trouve sa place au milieu des populations qui sont présentes. Il est un homme de paix. Sa force, c'est la confiance qu'il place en Dieu. Nous sommes appelés, nous aussi, à manifester les mêmes attitudes envers ceux qui nous entourent. Enfin, quatrièmement, et pour terminer, il nous faut relever de ce récit la trace laissée par Abraham. La trace qui reste d'Abraham, ce sont les autels où il a adoré le Seigneur et qui jalonnent son parcours. Pas des temples, pas des sanctuaires qui parfois disent autant la grandeur de l'homme qui les bâtit que celle du Dieu qu'ils sont censés vénérer. Abraham laisse là où il passe de simples autels. Le signe d'un hommage, d'un attachement, d'une fidélité à Dieu dans le cadre d'une relation personnelle. Abraham n'a bâti ni empire ni cité, mais il a eu une postérité innombrable, faite d'hommes et de femmes qui, comme lui, ont dit et disent encore par leur vie et par leurs actes, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est cela mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur afin de raconter toutes ses œuvres. » Quelle trace ambitionnions-nous de laisser? Quelle marque de notre passage voulons-nous laisser? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, dit le prophète Michée, et ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Quelle trace ambitionnons-nous de laisser? Quelle marque laisserons-nous de notre passage? Amen.